un jeune auteur fasciné par la mystique, Gilles Farset. Gilles Farset, qui enseigne à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, a publié en 87 une autre étude, cette fois intitulée Arnaud Desjardins, l'aventure de la sagesse. Une biographie considérable de ce grand spécialiste de la pensée orientale. Gilles Farset dirige aussi une revue qu'il a fondée, Filigrane, revue de recherche littéraire et spirituelle. Il est interviewé à Paris.
Directeur de la revue Spirale, vous êtes directeur d'une revue qui s'appelle Filigrane, vous avez écrit un ouvrage.
Dans la littérature, bon, je suis un littéraire, donc dans la littérature, je cherche évidemment un style, une écriture, qui est, je crois, le propre de la littérature en tant que telle, mais je cherche plus loin. La littérature, pour moi, n'est pas seulement un style, mais une recherche intérieure. Je crois que par le style, on essaye d'accéder à une vérité. Je sais que ce mot a très mauvaise presse à l'heure actuelle, mais je l'emploierai quand même s'il ne s'agit que de sa propre vérité, sa vérité intérieure. Pour moi, écrire, et cela s'applique aussi au texte qui me parle, c'est chercher à rentrer en soi-même. C'est une démarche d'intériorité. On rentre en soi-même et on essaye de donner le meilleur de soi-même, de rentrer en contact avec une part plus authentique, plus vraie, avec peut-être un petit peu de notre essence. Je ne dirais pas notre essence, parce que peut-être qu'on n'arrive jamais à l'atteindre complètement, à l'étreindre complètement. Je crois qu'il faudrait peut-être employer ici un langage amoureux. On s'est allé vers le dedans, aller vers l'intérieur, et ensuite donner un peu de cette part plus fine, plus subtile, plus intime, cette part meilleure de nous-mêmes, à ceux qui nous liront, pour essayer que notre dedans parle à leur dedans. C'est comme ça que j'envisage les choses.
Pourquoi taureau ?
Ça, c'est un facteur biographique. Vous savez, je suis très jeune, et taureau a été pour moi une influence marquante très tôt, qui est venue d'abord par les études, puisque j'ai fait un doctorat de littérature américaine, et donc j'ai découvert taureau dans le cadre de mes études, et j'ai été fasciné par ce personnage qui, à l'intérieur d'un cadre très puritain, le protestantisme du 19e siècle américain, a d'une part pressenti la crise qu'allait nous faire subir l'industrialisation à outrance, le virage que prenait l'Amérique, et qui a essayé de revenir à l'essentiel. Il a essayé avec les moyens dont il disposait, mais je crois qu'avant tout c'était un mystique, un personnage taraudé par la nostalgie de son essence, et je crois qu'il l'a dit d'ailleurs explicitement, qu'il s'est retiré au bord d'un étang, l'étang de Walden, dans les bois du Massachusetts, pour essayer d'entrer en contact avec cette part la plus intime de lui-même.
C'est donc l'auteur de l'étang de Walden, et non pas celui de la désobéissance civile, qui vous intéresse. Ce n'est pas le taureau politique, mais le taureau mystique.
Eh bien, le taureau politique m'intéresse aussi, parce que je crois que le taureau politique est un prolongement du taureau mystique, dans la mesure où l'action politique de taureau, je le dis dans mon livre, a toujours été une action non pas proprement politique, mais une action, j'allais employer le mot moral, décidément je n'emploie que des mots qui ont mauvaise presse aujourd'hui. Disons que taureau avait pour principe que certaines lois fondamentales, des lois de l'être, les lois de la personne ne doivent pas être violées. Et autant il lisait très peu les journaux, il se tenait finalement très peu au courant de ce qui se passait, mais par rapport au problème de l'esclavage, par rapport à la guerre contre le Mexique, par rapport au sort réservé aux Indiens, là, à ce moment-là, il s'est senti concerné, parce que pour lui, ce n'était pas un problème de politique politicienne, comme on dirait aujourd'hui, c'était un problème d'âme, je dirais, un problème moral, ou peut-être devrais-je dire un problème qui avait trait à l'âme, à la personne humaine. Et c'est cela qui l'a mobilisé. C'est pour ça qu'il a pris fait et cause contre l'esclavagisme et qu'il s'est fait mettre en prison pour une nuit, ce qui lui a fait écrire ce texte de la désobéissance civile. Donc ce taureau-là m'intéresse finalement tout autant, dans la mesure où c'est un prolongement. Mais comme on a beaucoup parlé de ce taureau politique, moi j'ai plus tenu à parler du taureau mystique, parce qu'il me semblait que c'était parler davantage de la source.
Vous dites dans cet ouvrage que vous auriez pu faire une lecture taoïste de...
Absolument.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qui aurait donné cette lecture taoïste?
Eh bien, c'est difficile à dire puisque je ne l'ai pas faite, mais je l'ai pressenti, notamment en parlant avec Kenneth White, qui lui est plus intéressé par le Tao que par le Vedanta. Et Thoreau est un homme, vous savez, les Chinois, je crois, pour le mot intellectuel, ils disent qu'un intellectuel, c'est un homme du vent et de l'éclair. Et Thoreau, c'est tout à fait cela. C'est quelqu'un qui essaye d'adhérer à la vie dans toutes ses manifestations, notamment à travers la nature, dans tout ce qu'elle a de mouvant, de changeant, la pluie, le vent, et qui essaye de, qui recherche une conscience plus cosmique, n'est-ce pas ? Et donc, je crois qu'en ceci, Thoreau est très taoïste. Et puis, il a un humour aussi, qui est parfois un petit peu absent, effectivement, dans le Vedanta, qui est quand même très, très sérieux, alors que les taoïstes sont plus poètes, sont à l'affût d'un humour paradoxal que Thoreau affectionnait. Donc, je pense que Thoreau, effectivement, a un côté extrêmement, extrêmement chinois.
Vous-même, vous vous sentez très proche de la nature ?
Oui, je vis principalement dans un village, tout près de la nature, et je consacre chaque jour, quand je le peux, un peu de temps à me promener. Donc je me sens effectivement proche de la nature. Mais quand je suis à Paris, qui est une ville que j'aime beaucoup, avec Montréal, je me sens bien aussi. J'aime aussi la ville, mais à condition de savoir que quelque part, je peux retourner quand je le veux à la nature. Je crois que je ne pourrais pas vivre en permanence en ville.
Mais qu'est-ce que ça vous inspire, la nature ?
Ça m'inspire cette intériorité dont je vous parlais au début de notre entretien. Je crois que la ville est un processus qui appelle à la dispersion. Cette dispersion parfois est très agréable et très riche. C'est un foisonnement absolument fascinant. Mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas trop s'identifier à cette fascination et régulièrement se retremper un peu à la source. Bien sûr, cette source, on peut la trouver au cœur de la ville, hein, je serais prêt à le dire, mais il est plus facile, malgré tout, de rentrer en soi-même devant un étang parmi les oiseaux, enfin, je vais dire des banalités, hein, romantiques, sous un beau ciel, ou même sous la pluie, en sentant toutes les odeurs qui montent, en s'en pénétrant, que, ma foi, au rond-point des Champs-Élysées. À mon avis, hein, du moins peut-être qu'un jour je ferai l'expérience d'une illumination mystique au rond-point des Champs-Élysées.
Oui. Mais comment éviter le sentiment de paganisme, une attitude de paganisme devant la nature ? Parce que vous savez, oui. C'est une chose qu'on remarque, n'est-ce pas ? C'est que, par exemple, le message biblique est assez critique à l'égard de
Tout
la
à fait.
Relation de l'homme et de la nature.
Tout à fait.
Et finalement, ce qui est proposé comme symbole de la fin de l'humanité, c'est la vie dans la ville. N'est-ce pas ? C'est la Jérusalem,
oui,
c'est
la cité.
La cité.
Oui, la cité, tout à fait. Ben, c'est effectivement un aspect, si je suis franc avec moi-même, c'est un aspect qui ne me parle pas tellement, effectivement. C'est pour ça que j'aime aussi le personnage de Thoreau comme solitaire, comme avec ce côté anarchiste un petit peu, mais entendons-nous bien, un anarchiste essentiel n'est pas quelqu'un qui pose des bombes, c'est quelqu'un qui essaye de vivre jusqu'au bout sa propre singularité. Laquelle singularité n'est pas nécessairement un mépris ou un dédain des autres, bien au contraire. Je crois que si on vit jusqu'au bout sa propre singularité, on est ensuite à même de s'ouvrir véritablement à la singularité des autres, au lieu d'essayer toujours de la laminer. Pour revenir plus précisément à votre question, je crois quand même que les monastères, par exemple, ont su recréer une vie qui, malgré tout, est très proche de la nature. Et j'aime beaucoup notamment les cantiques, les psaumes qui sont chantés au Laude le matin, où on célèbre cette création avec force détail, n'est-ce pas ? Enfin, je ne les sais pas par cœur, pas encore, mais les étoiles, les vents, etc. Et vous avez aussi beaucoup de saints bretons, par exemple, qui, vivant dans un environnement où les éléments étaient très forts, ont tenté de s'y unir. Je pense aussi à Saint François d'Assise. Donc je crois que ça n'est pas du tout incompatible avec une certaine pratique de l'intériorité. Je crois qu'il faut garder le meilleur du paganisme, quelque chose de vigoureux, un contact fort avec la terre, avec les éléments, et ensuite aller plus loin, le dépasser.
Thoreau était très critique à l'égard du christianisme.
Oui.
Et vous, comment vous vous situez ?
Alors, d'abord, je peux peut-être donner une précision à propos de Thoreau. Je crois qu'il était très critique à l'égard d'un certain christianisme, qui était d'abord celui qu'il avait connu, puisque c'était un fils de la Nouvelle-Angleterre. Donc vous savez très bien que la Nouvelle-Angleterre est le berceau du puritanisme, qui a donné lieu à la chasse aux sorcières, etc. Enfin, à une religion très... absolument rigide et un peu cauchemardesque, il faut bien le dire. Donc Thoreau a réagi contre cela. Et je crois qu'il était aussi, il a aussi réagi contre un christianisme qui était d'extériorité et non pas d'intériorité, un christianisme avant tout social, avant que d'être mystique. Et malgré tout, pour le mystique, je crois qu'on ne peut pas en sortir. Le mystique est quand même au départ un individualiste, même si ensuite il va plus loin que son individualité, dans la mesure où la démarche mystique est une démarche personnelle qui ne peut pas se faire, qui peut parfois se faire dans la foule. Dans le service des autres, mais qui démarre quand même dans la source intérieure, dans la solitude. Alors je crois que ce que Thoreau n'aimait pas dans le christianisme, c'était cette dimension-là. Maintenant, je vais vous répondre, je n'ai pas toujours esquivé et me caché sous Thoreau. Moi-même, comme tous les beaucoup d'adolescents à une certaine époque, après avoir reçu une éducation chrétienne, j'ai délaissé cet aspect. J'y suis revenu ensuite, attiré justement après un détour par l'Orient. L'Orient qui m'a fait redécouvrir une certaine intériorité, qui essaye d'aller vers l'ultime, n'est-ce pas, vers l'expérience fondamentale. Et cela m'a permis ensuite de retrouver effectivement les sources du christianisme.
Mais parlez-nous de ce détour par l'Orient, s'il vous plaît.
Oui, eh bien ma foi, je crois que c'est un cheminement assez banal. Je ne suis jamais allé en Inde, je ne suis jamais allé en Orient parce que j'ai 28 ans et d'autres personnes comme Arnaud Desjardins, sur lequel je termine un livre actuellement qui s'appellera L'aventure de la sagesse, Arnaud Desjardins ou l'aventure de la sagesse, à la table ronde, avait fait le chemin avant moi. Et donc, moi, je me suis simplement ouvert à cette spiritualité par le biais de personnes comme Arnaud Desjardins, par le biais de livres de mystiques hindous que j'ai pu lire très facilement à la librairie, je ne dirais pas d'Angle-sur-l'Anglin, mais où j'habite, mais dans de bonnes librairies parisiennes. Et ça m'a fasciné parce que... N'est-ce pas ? Ce que je regrettais, c'est que dans les églises, on ne me parle plus jamais d'intériorité. On ne me parle plus que de problèmes sociaux, n'est-ce pas ? J'y entendais un discours qui était finalement proche du discours des informations. Et le discours des informations ne m'intéresse pas tellement, n'est-ce pas ? Pour moi, les prêtres, s'ils ont conscience de leur vocation, sont des gens qui doivent témoigner avant tout de l'intériorité, ce qui ne les empêche pas par la suite d'éclairer le domaine social de leur expérience intérieure, mais je crois qu'il faut être très prudent dans ce domaine. Et j'avais aussi l'impression que l'Église et les prêtres demandaient des leçons à la cité au lieu d'être capables de les éclairer par un témoignage silencieux, en leur montrant, en les faisant revenir à l'essentiel. Et alors, en m'ouvrant à ces écritures, aux Upanishads, dont j'ai d'ailleurs traduit quelques-unes de l'anglais, aux sages taoïstes aussi, j'ai retrouvé une certaine la primauté de l'intériorité. Je me suis rendu compte ensuite que bien sûr elle existait.
Vous avez retrouvé la primauté de l'intériorité.
Je l'ai retrouvée, oui.
Donc c'est de dire qu'au point de départ, il y a eu quelque part dans
bien
votre
sûr,
vie,
bien sûr,
enfin, une affirmation de cette priorité de l'intériorité.
Bien sûr, je crois que très jeune, et là je dois bien le dire, c'est quand même grâce à une certaine éducation, très jeune j'ai pressenti des choses qui ont culminé, comme beaucoup, c'est très banal je crois, au moment de l'adolescence. Et justement le divorce s'est fait au moment où à l'adolescence, avec toute cette exigence évidemment très, très impitoyable, n'est-ce pas, j'ai senti que ce que je désirais avant tout c'était cette intériorité, cette expérience proprement, n'ayons pas peur des grands mots, transcendantales ou qui aillent vers une certaine transcendance, et que autour de moi je ne la trouvais plus. Ce qu'on me proposait c'était autre chose, et c'est donc à ce moment-là, comme beaucoup d'adolescents, je me suis cabré et que je suis allé chercher ailleurs ce qu'il y avait peut-être chez moi, mais dans les sources, n'est-ce pas, qui sont beaucoup oubliées. C'est ensuite que j'ai retrouvé certaines sources, comme par exemple les Pères du Désert, comme de grands mystiques tels Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse d'Avila, Saint François d'Assise, le père de Foucault. Et je dois dire que j'ai été saisi un moment très important pour moi. C'est un jour où j'ai vu une photo bien connue, n'est-ce pas, du père de Foucault devant sa grotte, avec un regard absolument illuminant d'amour. Et j'ai retrouvé dans ce regard un regard que j'avais vu sur certains mystiques, certains sages hindous notamment, dont j'avais vu des photos, que j'avais même approchées en Europe. Et je me suis dit, voilà, c'est ce même regard qui donne avant tout la primauté à je crois qu'il faut, être pudique pour employer certains mots qui ont été galvaudés, mais qui donnent la priorité, la primauté à un amour qui n'est pas un amour névrosé, qui n'est pas un amour superficiel, qui est l'amour qui naît d'un contact avec son dedans, qui se passe dans le silence, dans une certaine pudeur. Et ça m'a beaucoup frappé de retrouver ce regard.
Mais, enfin, qu'un jeune homme... Vous parlez de l'adolescence. Qu'un jeune adolescent, oui. Ou encore qu'un tout jeune homme de 28 ans, soit d'abord préoccupé de vie intérieure, alors qu'on peut imaginer qu'un jeune homme est plutôt préoccupé de marquer l'univers qui l'entoure, enfin qui se projette vers l'extérieur. Est-ce que ça vient d'un certain état du caractère? Est-ce que ça vient d'une expérience, je dirais, première, alors, qu'est-ce que c'est qui s'est passé?
C'est très difficile à dire. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par l'intériorité et en même temps aussi très critique, avec toujours un côté, n'est-ce pas? C'est pour ça que je me retrouve dans des personnages comme Thoreau ou Thomas Merton, même, qui était un moine, mais un moine quand même singulier, un trappiste singulier, sur lequel je prépare aussi un livre, avec toujours un côté un petit peu anarchiste, n'est-ce pas? Un petit peu en retrait, avec cette volonté de préserver, je dirais, le meilleur de l'adolescence. J'ai été très bouleversé quand un écrivain américain que j'aime beaucoup, qui est Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, j'ai lu un jour que Herman Melville, après sa mort, on a retrouvé dans son secrétaire un petit papier qu'il avait collé à même le bois, sur lequel il avait inscrit cette phrase « Keep true to the dreams of thy youth »,« Reste fidèle aux rêves de ta jeunesse ». Et j'ai été très touché, c'est un thème aussi que développe un écrivain que j'aime beaucoup, Gabriel Matzneff, par cette volonté de préserver ce qu'il y a de meilleur dans l'adolescence, qui est une aspiration mystique, une aspiration à dépasser la médiocrité qu'essaye de nous imposer, n'est-ce pas, un certain ordre social qui est fait de compromis. Alors bien sûr, dans l'adolescence, on est impitoyable, on ne sait pas tellement ce que c'est que le pardon et la compassion. On en veut à l'univers parce qu'il n'est pas pur. Bien sûr, ensuite, j'ai changé, je me suis assoupli, mais j'ai essayé de garder cette part de moi-même un petit peu exigeante. Et qui a toujours été là, autant que je m'en souvienne. Je crois qu'il y a aussi une prise de conscience, n'est-ce pas, qui correspond un petit peu à cette prise de conscience du Bouddha, que j'aime beaucoup, le Bouddha qui n'est-ce pas, est un prince, qui a joui de tous les bonheurs que peut procurer ce monde, et puis qui un jour se rend compte que le problème fondamental est celui de la souffrance. Qui dit « il y a souffrance, et il n'y a qu'une chose, c'est la souffrance, et éventuellement... » une disparition, ou du moins une autre attitude vis-à-vis de la souffrance. Et donc qui tire des conclusions logiques, qui dit voilà ce que c'est que ce monde, finalement ce monde nous mène à quoi? Inévitablement à la décrépitude, à la mort, à la déchéance, et il faut que nous investissions nos énergies dans peut-être un domaine plus fondamental qui est là, ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de marquer le monde ensuite. Actuellement, si je dirige une revue, si j'écris des livres, si je participe à des émissions, c'est bien sûr avec un désir de marquer le monde. Je ne suis pas un pur, je ne voudrais pas me présenter comme un contemplatif, parce que ça n'est pas vrai, je ne suis pas un contemplatif. Sans ça, je serais dans un monastère ou dans une grotte, et peut-être que je serais plus heureux, je n'en sais rien.
En réalité, vous êtes un jeune homme marié, entreprenant, ayant des projets de...
Absolument, je suis hyper actif actuellement, mais pour moi aussi, c'est un thème que j'aime beaucoup, il y a une espèce d'oisiveté active, n'est-ce pas? Je crois que la contemplation peut être vécue quand on arrive à un certain seuil d'activité maximale. Je crois que la contemplation, c'est soit vraiment la contemplation du moine, qui même le moine travaille, n'est-ce pas? Mais enfin, le moine qui s'abstrait un peu du monde et qui essaye d'approfondir une expérience d'intériorité, ou alors la personne qui véritablement s'engage à fond dans ce monde qui est le nôtre et qu'il faut accepter tel qu'il est, même si on pense qu'il n'est peut-être pas idéal, loin de là, mais je ne crois pas de toute façon à la possibilité d'un idéal totalement incarné. Je crois qu'il faut accepter ce monde, et à ce moment-là, si on s'engage dans ce monde et qu'on essaye de pénétrer ce monde de notre dedans, à ce moment-là, on aboutit à la pointe extrême de l'activité, à une certaine forme de contemplation, qui pour moi est le fait d'être capable d'agir, n'est-ce pas, et d'agir très fortement, tout en étant en même temps aussi détaché que possible. J'aime beaucoup le mot de la Bhagavad Gita, vous savez, qui dit qu'on a droit à l'action, mais pas au fruit de l'action. C'est-à-dire agir, faire tout son possible, et puis intérieurement dire ma foi, eh bien, on verra ce qu'il en ressort, le reste ça ne m'appartient pas. Hein. Essayez d'avoir un certain détachement. Et à l'heure actuelle j'ai 28 ans, mais n'est-ce pas pour moi ce qui serait affreux? Alors on verra, on pourra refaire une rencontre dans 30 ans, en 40 ans, mais...
Je ne serai pas là.
On ne sait jamais. Mais ce qui serait affreux, n'est-ce pas, c'est s'il m'est donné de vivre encore longtemps, ça serait à 50 ans, à 55 ans, à 60 ans, d'être toujours accroché à ce qui nous tient à l'heure actuelle, n'est-ce pas, de vouloir faire des livres, etc. Si je fais encore des livres à ce moment-là, très bien, mais je voudrais vraiment les faire détacher. Je voudrais pouvoir être aussi bien... retirer quelque part, sans rien faire, ou alors au contraire être toujours très actif, mais vraiment avec un sentiment de détachement. Il n'y a rien de plus pitoyable que ces gens, n'est-ce pas, qui ont fait une œuvre, qui ont accompli, qui ont dit ce qu'ils avaient à dire, et qui ensuite, à 60 ans, 65 ans, 70 ans, 80 ans, s'accrochent toujours, n'est-ce pas, à leur... et tournent un peu... J'ai relu hier des pages très belles de François Mauriac, dans ses Mémoires intérieures, où il parle de ces écrivains qui n'ont plus que leur style, et qui s'accrochent, n'est-ce pas, à ce vieux moulin bien rodé qui tourne à vide. Alors ça, non. Moi, pour moi, ce que j'essaye de faire actuellement, c'est d'aller très loin dans une certaine activité qui commence à peine, et pour ensuite justement en être détaché, pour ensuite peut-être pouvoir passer à autre chose. Et j'admire beaucoup l'exemple d'Arnaud Desjardins, donc, que j'ai beaucoup côtoyé ces derniers temps, puisque je termine un livre sur lui, qui ma foi a connu un très grand succès en tant que réalisateur, conférencier, auteur, explorateur, et puis qui ensuite, vers l'âge de avant 50 ans, a laissé ça, et est allé se retirer quelque part en Auvergne.
Ce serait votre projet?
Je ne sais pas, parce qu'il ne faut jamais dire, peut-être qu'à 50 ans, je me serais totalement fourvoyé et je serais devenu quelqu'un d'absolument impossible. Enfin, j'espère que non. Donc, il ne faut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais je n'aimerais pas, à l'heure actuelle, à 50 ans, être encore accroché, n'est-ce pas ?
Mais cette spiritualité dont vous nous parlez, est-ce que c'est une spiritualité, je dirais, diffuse, ou si elle trouve une voie précise, une incarnation ?
Oui, bien sûr, je crois que la spiritualité, si elle existe, bien sûr, il y a toujours un côté, je ne dirais pas vague, mais je veux dire quelque chose qui échappe, n'est-ce pas, au langage et qui échappe aux pratiques, qui dépasse les pratiques, qui dépasse le langage, qui dépasse ce qu'on peut en dire. Bien, mais à côté de ça, il est évident qu'une spiritualité, pour être authentique, doit s'axer sur une pratique. Sans cela, n'est-ce pas, c'est un discours. Mais cette pratique, je crois qu'elle est avant tout une pratique intérieure, n'est-ce pas ? Une pratique que j'oserais même qualifier d'ascétique, sans que ce mot évoque, il ne faut pas qu'on croie que je ne sais pas, que je fais des macérations, loin de moi cette pensée, mais bon, une certaine exigence intérieure, une certaine volonté de se demander des choses à soi-même.
Exigence par rapport à quels paramètres ?
J'ai tendance à être très pudique, peut-être trop, pour parler de ce qui m'importe le plus, mais une exigence d'abord à notre dedans, et alors dans ce dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien dans ce dedans, je crois qu'il y a un être, je crois qu'il y a une lumière, quelque chose qui vit en nous, et qui nous demande d'être fidèle à notre dignité d'homme, à notre dignité, je vais dire, de fils de l'homme. Vous savez, il y a cette parole, l'homme à l'image de Dieu, et je crois, comme tout le monde, je scie très souvent entre certains doutes et certaines certitudes, mais je crois que si effectivement Dieu existe, et je crois que si Dieu existe, il dépasse toutes les conceptions que nous en avons, même si il est louable et nécessaire d'essayer de l'approcher, je crois qu'à ce moment-là, il nous demande d'être fidèles à cette part indicible de nous-mêmes qui, n'est-ce pas, dépasse toutes nos petitesses et tous nos manques, toutes nos faiblesses, qui sont là, qu'il ne faut pas rejeter, qu'il faut accepter. Je crois beaucoup à l'idée qu'il ne faut pas du tout s'en vouloir d'être ce que l'on aime, et qu'au contraire, il faut s'accepter pleinement. Et à la limite, aller jusqu'au bout de ses contradictions, jusqu'au bout de ses faiblesses, jusqu'au bout de ses erreurs même, pour ensuite pouvoir les dépasser. Bien sûr, c'est dangereux, il faut être très vigilant, mais je crois qu'on ne s'en tire pas en essayant de se croire plus avancé que l'on est, et en essayant de jouer au saint ou au sage avant de l'être. Je crois qu'il faut être pleinement ce qu'on est ici et maintenant, et petit à petit, on arrive, n'est-ce pas, à cette... on traverse toutes les scories, et on peut arriver à cette fine pointe de nous-mêmes.
Mais enfin, c'est toujours vous-même que vous retrouvez. Vous partez de vous-même.
Ah non, c'est-à-dire que après, je retrouve quelque chose qui est plus moi-même que moi, qui est moi-même, qui est mon identité, peut-être mon identité dans ce qu'elle a d'ultime, Mais ensuite, ça bascule bien au-delà de mon identité. C'est tout autre chose que ma petite identité personnelle. Alors, ce que je trouve, c'est autre chose. C'est peut-être une personne qui n'est pas ma personne, mais qui est la personne, n'est-ce pas ? Alors, bien sûr, à ce moment-là, on va enfin prononcer un mot, un nom qui est le nom du Christ, peut-être, mais j'ai un peu toujours de réticence à employer, même, n'est-ce pas, le nom du Christ, qui a été tellement, dont on s'est tellement servi pour le pire comme pour le meilleur, n'est-ce pas, ad majorem dei gloriam. Je préfère taire l'essentiel. J'aime beaucoup, par exemple, un écrivain comme Jean Sullivan, qui, à travers ses livres, arrive toujours à taire ce qu'il y a de plus intime en lui-même tout en le transmettant, n'est-ce pas ? Et je crois que là, il faut se méfier des mots et même des noms. Il faut essayer d'être fidèle à cette exigence en soi-même. Et puis, si je dis le Christ, peut-être que pour certains, cela semblera être une négation ou une condamnation d'autres religions ou d'autres... je dirais d'autres sages. Le Christ, pour moi, est bien plus qu'un sage, d'autres grandes figures religieuses qui ont essayé d'approcher, d'être fidèles à cette exigence. Hein.
Gilles Farset, je vous remercie.
Rappelons que Gilles Farset est l'auteur de Arnaud Desjardins ou L'aventure de la sagesse, paru aux éditions de la Table Ronde en 87. Henri Thoreau, L'éveillé du Nouveau Monde, aux éditions Sang de la Terre en 86. Il a aussi publié un essai et des poèmes, L'utopie conjuguée au présent poétique, paru chez Argel, ainsi qu'une traduction des Upanishads, d'après le texte de Russell et Scherer. Gilles Farset dirige une revue qu'il a fondée, Filigrane. Il s'agit d'une revue de recherche littéraire et spirituelle, distribuée par Albin Michel.